Frères et sœurs, dans le Messie Yeshua, je vous salue. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur, dans sa grâce, pourvoit à tous vos besoins. Que son nom soit béni. Je prie que l'Éternel, notre Dieu, nous donne la grâce de le connaître à travers son Fils, afin que nous puissions mieux le servir, puisque la vie éternelle dépend, et notre foi aussi en dépend, de la connaissance que nous avons du Messie. Voilà, mes frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse et nous garde. Je prie que ce moment, ou bien cette réflexion que je vais faire, soit un moment de partage, de communion, un moment d'éclaircissement pour nous tous, bien sûr, pour nous tous. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde. Amen et Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes le 26 juin 2022, hein, et nous nous réjouissons d'être en vie, d'avoir la force de continuer à faire ces enseignements, ces réflexions. Bon, n'hésitez pas, hein, à me faire des retours. Il y en a quelques-uns qui le font, mais bon, la masse ne le fait pas. Bon, en tout cas, bon. Que l'Éternel soit béni, simplement. Aujourd'hui, j'aimerais entamer une réflexion sur le livre de l'Ecclésiaste. Hein, l'Ecclésiaste, 2 versets. C'est vrai que, en tout cas, moi, depuis que je suis né de nouveau, hein, en 1990, j'ai entendu peu de prédications sur l'Ecclésiaste. Et les proverbes aussi, d'ailleurs. Peu de prédications, de même que sur le cantique des cantiques. Peu de prédications là-dessus. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire une petite réflexion sur 2 versets. C'est quand même 2 versets qui me font réfléchir depuis un certain temps par rapport à la fin des temps, par rapport à l'action de notre Père, de l'Éternel Dieu. Voyez, voilà, mais bon, je vous le livre, je vous livre ces réflexions-là. Et comme nous le dit l'Esprit Saint dans la Bible, d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon, qu'il en soit ainsi pour vous. Soyez des Béréens, soyons tous des Béréens pour examiner ce qu'on nous enseigne, pour voir si... si c'est vrai, si c'est la vérité, si c'est conforme à la parole de Dieu, ainsi de suite. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, l'heure est tellement avancée que ce n'est plus le moment de rester dans un enseignement qui n'est pas biblique. D'accord? Donc, prenez votre courage puisque la Bible même nous dit de sortir de Babylone, vous voyez. De sortie de Babylone, sortie de l'idéologie babylonienne qui prévaut dans certaines dénominations. Vous voyez, donc c'est pas moi qui le dis, mais c'est visible aujourd'hui que l'esprit de Babylone est partout dans le monde entier. Hein, voilà. Donc notre premier verset se trouve dans Ecclésiaste 1, le verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bon, l'Ecclésiaste, qui est le roi Salomon, hein, le roi Salomon, nous livre ici sous l'action de l'Esprit Saint. Il faut savoir que tout ce qui a été écrit l'a été pour nous et que c'est sous l'action de l'Esprit Saint, parce que voyez, c'est comparable également à la création. Vous savez que nous avons tous vu que l'Esprit de Dieu vibrait à la surface des eaux. De la même manière, c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré ces écrits, donc il en est l'auteur. Et il ne fait jamais de faute. Donc, Ecclésiaste 3, le verset 15. Ce qui est, a déjà été, et ce qui sera, a déjà été et Dieu ramène ce qui s'est passé. Voilà. Donc on va faire attention donc au mode des verbes qui ici dans ces versets. Il faut dire que quand on dit Dieu ramène Bakash, Bakrash, Dieu ramène. Il faut savoir que c'est en mode, non, c'est conjugué au piel. Piel est un intensif. C'est un intensif, quoi. C'est comme, si on dit par exemple, il brisa et que c'est en piel, c'est il rédigit en miettes. C'est comme s'il a écrasé. Donc Dieu ramène promptement, Dieu ramène rapidement, Dieu ramène vraiment avec zèle hein, ce qui a été. Voilà, j'en ferai le lien avec la fin des temps tout à l'heure. Et c'est au monde imparfait, donc c'est-à-dire qu'il y a une répétition dedans, une répétition que l'action est appelée à se répéter. À se répéter jusqu'à la répétition ultime, voilà, qui sera la dernière. Donc voilà. Donc ici, bon, j'ai eu à réfléchir là-dessus et puis je me suis dit bon, si tel est ainsi de l'action de Dieu, c'est que tous, beaucoup de choses qui se sont passées donc dans les Écritures au commencement de la parole de Dieu, donc doivent également se retrouver à la fin. J'ai fait une association comme ça avec quand le Seigneur Yeshua dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il dit qu'il est le premier, le dernier, le début et la fin. Il est l'aleph et le tav. Donc cela veut dire qu'il y a une correspondance entre l'aleph et le tav, entre aleph et tav. Donc il y a une correspondance. Donc ce qui s'est fait au début peut également se faire à la fin. La preuve, beaucoup d'exégètes ont vu que le premier verset, en tout cas le premier chapitre du livre des commencements, Bereshit ou Genèse, renferme en même temps des informations sur la fin. Sur la fin donc de ce monde, pas la fin du monde, non, du système. Voilà, la fin de ce monde, si c'est pas la fin du monde, le monde ne sera pas détruit lors du retour du Seigneur Yeshua, mais le monde sera remplacé, détruit, ce monde s'il sera détruit lorsque nous rentrerons donc dans l'éternité. Donc, si ces versets-là sont vrais, et nous savons que l'Éternel soit vrai, que tout homme menteur, et que la Bible est la vérité absolue, et que l'Éternel Dieu a dit dans sa parole qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, cela veut dire que ce que nous sommes en train de lire là, que c'est la vérité. Donc, ce que l'Éternel a fait dans le passé, il le fera aussi à la fin. N'est-ce pas? Nous allons voir quelques exemples. Par exemple, l'Éternel Dieu a créé ce monde-ci. Et nous voyons qu'à la fin, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu va faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est ça, n'est-ce pas? Et nous voyons également que, à propos de ce que nous appelons l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église, par exemple, ou bien des enfants de Dieu, ou des croyants, ceux qui sont prêts. Et nous voyons aussi que dans le passé, l'Éternel Dieu l'a également fait, on voit avec Enoch, ou Hanor. Hanor veut dire initié, dédié, consacré. Donc, tous les enfants, tous ceux qui sont dédiés à l'Éternel Dieu, tous ceux qui sont consacrés, tous ceux qui sont initiés, veut dire aussi ceux qui sont dans l'intimité de Dieu, dans le secret de Dieu, dans l'intimité, vous voyez, de l'Éternel Dieu, qui sont guidés par son Esprit Saint. Vous voyez, puisque la Bible nous dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc ceux dans qui l'Esprit de Dieu agit sont, en quelque sorte, participent, puisque c'est ce que Pierre nous dit, donc, participent à la nature divine. Vous comprenez? Donc sont intimes de Dieu, sont initiés de l'Éternel Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé donc à Nord? Dans le Genèse, dans le livre de Genèse, le livre des commencements, la Bible nous dit que Hanor marcha avec l'Éternel Dieu, c'est dans 24. Genèse 5, le verset 24. Vous voyez, on nous dit que Hanor marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il faut faire attention dans ce verset. Il y a beaucoup d'informations. Hanor ou bien Enoch, comme je viens de donner la définition, mais le nom ou bien le nom de Dieu n'a pas changé, mais ils ont mis un article devant. Le Dieu, ils ont dit le Dieu. En hébreu, ils ont utilisé Ha Elohim. C'est-à-dire qu'ils ont ce Dieu-là, ce Dieu, le vrai, pas les autres dieux. Et Enoch a marché avec le vrai Dieu, Ha Elohim. C'est visible en hébreu. Moi, je demande, ou bien j'exhorte les frères et sœurs à utiliser le dictionnaire Strong, c'est vrai, ça vaut ce que ça vaut, mais ça donne une mine d'informations. Si vous ne pouvez pas étudier l'hébreu directement, ayez au moins le dictionnaire Strong pour voir la définition de certains mots, certaines tournures qui ne se voient pas dans le français, qui ne se voient pas en français ni en anglais. Donc ici, ils ont mis un article devant Elohim, le Dieu, le seul, le vrai, l'unique, hein, ce Dieu-là, pas les autres. Voyez, ils ont défini ce Dieu-là, Ha Elohim, le Dieu, ils ont dit le Dieu le prit, pas un autre Dieu. Pourquoi l'Esprit Saint a-t-il besoin de désigner ce Dieu-là? Parce qu'il faut savoir que depuis Shem, depuis la naissance de Shem, ou bien voilà Shem, qui est le nom, le dernier fils d'Adam, on dit Adam, pas Adam, on dit Adam en hébreu, que la Bible nous dit que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à adorer Dieu. Mais on peut aussi traduire ce mot que c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à profaner Dieu. Donc il y avait quand même une idolâtrie ambiante en ce moment-là. C'est pourquoi l'Esprit Saint a précisé, puisque Elohim, c'est le terme générique pour parler aussi des idoles, on peut aussi utiliser Elohim, même certaines personnes, des juges, oui, ont été désignés Elohim dans la Bible. D'accord? Donc voilà, on dit le Dieu, ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc nous voyons que l'enlèvement a déjà eu lieu, même avec Noé également, où dans une grande population, l'Éternel a choisi, en tout cas pas choisi, il n'y a que huit personnes qui ont pu être sauvées. Noé ou son vrai nom, Noar, ça veut dire repos, repos. D'accord? Donc voilà, huit personnes, parce qu'il y avait des milliers de personnes. Et on a aussi vu que lorsque Noar et sa famille sont rentrés dans l'arche, l'Éternel Dieu a entendu encore 7 jours avant de fermer, avant de faire couler avant de faire déferler le déluge sur la terre. Ça nous montre également la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Oui, donc ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et c'est ce qui s'est fait, n'est-ce pas? Ce qui a été, c'est ce que l'Éternel Dieu a fait. Ouais, Dieu, l'Éternel Dieu a une constance. C'est nous qui ne nous voyons pas les choses. Et nous devons comprendre cela. Si nous examinons bien la parole de Dieu, la Bible, ben, c'est la Bible qui doit nous lire. C'est pas nous qui lisons la Bible, c'est la Bible qui doit nous lire. Et l'Éternel, notre Dieu, nous révèle des choses. D'accord? Donc, nous voyons le principe ou bien un exemple d'enlèvement. Donc, nous voyons également que l'enlèvement ou bien le salut sera sélectif puisque il n'y avait que 8 personnes, Noah et sa famille, qui ont été admis à entrer dans l'arche qui est synonyme de salut, qui est symbole du Messie également. D'accord? Donc, de la même manière, à la fin des temps, nous voyons que il y a peu de personnes qui seront sauvées également, qui seront enlevées, comme nous l'a montré le parabole des 10 vierges. Il n'y a que 5 vierges qui ont été enlevées. D'accord? Nous voyons cela. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Dans Ecclésiaste 3, le verset 4, on nous dit ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Ce qui est a déjà été, ce qui sera déjà. Donc, l'enlèvement, nous voyons cela, par exemple, a déjà été. D'accord? La fin du monde a déjà été puisque l'Éternel Dieu a créé le monde. Il créera aussi de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais pendant ce temps, il nous donne l'occasion, il donne l'occasion à l'humanité entière de se repentir et de revenir à lui, de revenir à lui. L'être humain n'est pas un animal. Seulement n'est pas un animal. On ne vit pas simplement et mourir et puis c'est là. Et puis c'est bon, d'accord? Mais nous sommes là pour servir l'Éternel notre Dieu. Même si certaines personnes ont perdu cette vision et pensent que ils sont comme les animaux, qu'après la mort, c'est terminé et puis c'est bon. Voilà, donc on peut faire tout ce que l'on veut parce que après la mort, il n'y a plus rien. Beaucoup de gens pensent comme cela, mais non. Il est donné à l'homme, à l'être humain plutôt, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Voilà. D'accord? Les gens mouraient au temps d'Adam et les gens meurent aujourd'hui. Les gens mourront encore demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et nous allons également prendre le cas d'Élie. Par exemple, l'Éternel Dieu, dans sa grâce aussi, a... Lorsque son peuple s'égare, et lorsque d'abord son peuple était en captivité, l'Éternel Dieu a suscité des libérateurs. Moïse a suscité Moïse, qui est venu et a libéré le peuple de l'esclavage. De la même manière, l'Éternel Dieu a suscité son fils, a envoyé son fils pour libérer les hommes de l'esclavage du péché, de l'esclavage du Dieu de ce monde qui n'est autre que notre ennemi, l'ennemi de nos âmes, le diable ou Satan. Donc nous voyons cela. Et de la même manière, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Yeshua, ou bien le Christ Jésus, voilà, le Christ Yeshua est venu. Je vais mélanger les deux pour que vous puissiez comprendre. Je le fais exprès. Pour que vous puissiez comprendre que Yeshua, c'est Jésus. D'accord? La tradition de Yeshua, en français bien sûr, Jésus. D'accord? Le Messie, le Christ. Mashiach, le Messie, le Christ. Loin, loin, loin. Voilà, donc c'est ça. Donc, ne vous étonnez pas que je mélange les deux noms. Ok? Voilà, donc... Et tout ce qui concerne donc le salut de l'humanité, tout ce qui on voit même la grâce quand l'Éternel Dieu aussi a sacrifié, a tué un animal pour couvrir à Adam et Ève et Eva. Hein? Tu as sacrifié un animal pour les couvrir, pour couvrir leur nudité, pour couvrir leur corps. Avant, ils n'en avaient pas besoin parce qu'il y avait une lumière, hein, qui était autour d'eux. Ils avaient un vêtement de lumière et après, ils avaient un vêtement de peau. Voyez la différence, d'accord? Voyez la différence, hein, que Adam, l'être humain a hérité, d'accord? Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment crucial. Un moment crucial de l'humanité parce que les temps sont très avancés, les clignotants sont au rouge, hein, d'accord? J'ai dit tout à l'heure comment, des exemples précis, hein, j'ai pris que quelques exemples, hein, d'accord? Donc il y a plusieurs exemples où nous voyons qu'il y a une sorte de répétition. Même quand on prend l'histoire du Messie, nous voyons qu'il y a eu des types de Messie jusqu'à la révélation du vrai Messie. Isaac était une figure de Messie. Joseph était une figure de Messie, ainsi de suite. David était une figure par excellence du Messie. Voyons cela, d'accord? Voilà. Et j'ai parlé tout à l'heure, ou bien je disais dans mon introduction, ce n'est même pas une introduction au début de cette réflexion, que ce verset est en relation donc avec la fin des temps. C'est vrai, ce que je vais dire. Écoutez bien ce que je vais dire. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps pour démontrer tout, mais si j'avais le temps, donc. Le message sera trop long et beaucoup de gens maintenant disent que bon que les messages sont trop longs. Quand ça dépasse 1 heure, les gens n'écoutent plus. D'accord? Donc j'aimerais bien que tout le monde puisse écouter et réfléchir ensemble avec moi. Donc, et dans des moments clés de l'histoire d'Israël, nous avons vu que l'Éternel Dieu a envoyé des prophètes pour réveiller le peuple, pour que le peuple ne sombre pas, pour que le peuple ne rétrograde pas totalement. Comprenez? C'est ça, parce que il y aura toujours un reste. L'Éternel Dieu sait toujours garder un reste d'adorateurs fidèles à lui, même dans les temps les plus sombres. On l'a vu même au temps d'Abraham, même lorsque Sodome était au fond des ténèbres, au fond de la nuit, au fond du péché, de l'impudicité, Abraham était là comme la lumière qui est venue sauver, qui a intercédé pour son neveu Lot et qui est venu, que grâce à son intercession, l'a sauvé et qui l'a aussi sauvé également de la main des rois et toute la population aussi de Sodome. Voyons cela, voilà également. Et dans les moments clés de l'histoire du peuple de l'Éternel Dieu, donc l'Éternel a envoyé des prophètes capables de ramener le peuple à lui, de prêcher la repentance. On l'a vu avec Élie ou Éliaou. Mon Dieu est l'Éternel. Mon Dieu est l'Éternel. Éliaou, mon Dieu ou Élie. Mon Dieu est l'Éternel. C'est un prophète réformateur. Il a réveillé le peuple. Il a détruit l'idolâtrie. Il a fait de la même manière. Vous voyez, dans Malachie 4 également, dans la Malachie 4, le verset 24, l'Éternel Dieu a promis à Israël, hein, à Israël d'envoyer Élie. Pourquoi Élie précisément? Parce que c'était un réformateur, c'était un prophète qui a ramené le cœur qui a ramené, c'est la mission que l'Éternel Dieu lui avait fixée de ramener le cœur. Je lis plutôt. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, Éliaou, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc il y aura une unité de la foi entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, entre la génération du début de l'histoire avec l'Éternel Dieu et la génération de la fin qui verra le jour de l'Éternel, où il y aura la fin des temps. D'accord? Donc, on va retourner à la foi d'Abraham. À la foi d'Abraham, à la foi, à cette foi-là vivante, à cette adoration, à cette foi qui a animé Abraham, qui a animé les patriarches, qui a animé les prophètes, qui a animé David, qui a animé également les apôtres également. Cette foi-là inébranlable, d'accord, c'est ça que ce verset dit, arriver à une unité de la foi. Cette unité de la foi, nous le voyons également, c'est ce que l'Esprit de Dieu à travers Paul ou Shaoul ou Paulos disait dans Éphésiens 4, le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, en parlant de l'Église, en parlant du rôle de l'Église, en parlant du rôle des ministères que l'Éternel Dieu a donné à son Fils et que son Fils nous a octroyé, nous a partagé à son Église. Jusqu'à ce que nous soyons, il a dit, pas tu es, nous soyons, en parlant de l'Église, nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de l'Éternel Dieu, à l'état d'homme fait, d'être humain fait, à la mesure de la statue parfaite du Messie, Yeshua. Donc voilà le programme. C'est ce que l'Église devait faire. Donc avec tous ses ministères. Mais la Bible nous dit qu'avant la fin, le retour de Yeshua, parce que le retour de Yeshua va marquer la fin de cette période. C'est fini. C'est fini. La fin de la période, de cette période, va être couronnée par le retour de Yeshua. Yeshua. Donc, attendons-nous à un réveil. Voilà. Je pense que, pour que cette unité de la foi ait lieu, il faut qu'il y ait une prédication puissante. Il faut qu'il y a le prophétique revienne. Hein, et je pense que cette interrogation, cette prière de Leonard Ravenhill pour quand le réveil va être exaucé, parce qu'il va avoir les élus de Dieu qui vont venir. Voilà, qui vont venir. En tout cas, c'est ma conviction, hein, que je vous livre sur le déroulement de ce qui va se passer de ce qui va se passer dans l'Église de Dieu. Parce que Yeshua lui-même a prié pour l'unité de l'Église, l'unité des croyants, l'unité, mais c'est pas ce que l'on voit aujourd'hui, hein. Avec toutes ces dénominations aussi fantaisies les uns que les autres, qui prônent des fois des doctrines contradictoires, complètement contradictoires entre elles, mais également des fois des doctrines contradictoires donc à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un ensemble de doctrines, c'est la parole de Dieu. Or, la Bible nous dit que la parole de Dieu ne peut pas être d'une interprétation particulière, c'est-à-dire on ne peut pas emprisonner la parole de Dieu, que c'est ça que cela veut dire, c'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des fondamentaux dans la parole de Dieu. Personne ne peut remettre en question la messianité de Yeshua, ou bien son sacrifice, ainsi de suite. Non, ça c'est vrai, ça c'est clair. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles, comme l'apôtre Paul le dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais lorsque Yeshua sera de retour, il nous mettra tous d'accord. Mais pour le moment, essayons de donner ce que l'Esprit Saint nous donne à voir de la parole de Dieu. Ne soyons pas rigides. Ne soyons pas rigides. Tant que il n'y a pas de péché Dans cette interprétation, gardons-nous de critiquer ou de vilipender l'autre, sauf si vraiment ce que cette personne interprète est contradictoire à la parole de Dieu. Même, bon, c'est pour cela même qu'il y a le don de discernement dans l'Église. C'est pour cela que la Bible nous dit d'examiner toutes choses. Pourquoi la Bible nous dit d'examiner toutes choses? Parce que même dans une prédication, il y a des choses dont tout le monde n'a pas besoin. Même dans ce que je suis en train de faire là, il y a certaines personnes qui connaissent déjà ce que je suis en train de dire. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui révèle les choses, qui révèle les choses. D'accord? Donc, attendons-nous au retour du prophétique, un prophète majeur, comme cela a été le cas avant l'apparition de Yeshua, avant la proclamation, ou bien avant que l'on montre, l'on dévoile, avant le dévoilement du Messie Yeshua à Israël. D'accord? Il y a eu un prophète majeur, Jean le Baptiste, Yohanan Amatbil, Jean le Baptiseur. On ne dit pas Jean-Baptiste, mais on dit Jean le Baptiseur, pas Jean-Baptiste, d'accord? C'est pas un prénom, c'est Jean le Baptiseur, Yohanan Amatbil, en hébreu, bien sûr, voilà, donc c'est ça. Il a eu, et Yeshua a témoigné que c'est lui, l'Élie, qui doit venir. Parce que Élie doit ramener Israël à l'unité de la foi dans le Messie, à l'unité de la foi. Hein, d'accord? À l'unité de la foi. Doit ramener donc les pères à la foi des. Attends, je vais plutôt lire, hein, écoutez, je vais plutôt lire. Voici, Malachie 3, le verset 23. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel arrive. Le jour de l'Éternel, c'est un jour unique. Hein, c'est un jour éhad, c'est un jour grand et redoutable. La Bible nous rend témoignant dans Joël et Zacharie que c'est un jour ou un jour sombre, mais que au soir la lumière paraîtra. Voilà. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. C'est ça. On aura une unité de la foi, unité de la parole de Dieu. Parce que beaucoup d'aujourd'hui en Israël ne croient pas dans le Messie Yeshua. Mais lorsque ces prophètes, ces élus de Dieu, ces élus de Dieu, ces prophètes viendront avec l'onction et la puissance d'Élie, je pense que ce sera dans le monde entier et surtout en Israël. Il va apparaître bientôt sûrement un prophète Jean de type de Jean-Baptiste. J'en suis convaincu qu'il va en avoir des élus de Dieu qui vont apparaître et qui vont proclamer également le retour d'Israël à son Messie, qui vont proclamer cela, même si, comme au temps de Jean le baptiseur, hein, des gens ont rejeté cela, il faut dire que ce sera quand même prêché en témoignage pour tout le monde et pour le monde entier. Et de la même manière, je suis convaincu que, à cause de ces versets-là, je suis convaincu que l'Église, ou bien la foi qui existait au temps des apôtres, reviendra. Ben oui, c'est à cause de tous ces versets dans Ecclésias, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ou bien également, ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Donc l'Éternel Dieu pour un témoignage, pour que les choses soient claires, hein, il y aura bientôt, je suis sûr que la foi des apôtres, la manière d'adorer, la manière de servir Dieu, avec tout ce qui l'accompagne dans les actes des apôtres, va revenir. Il ne s'agit pas que je ne parle pas des gens qui se nomment aujourd'hui, qui se recommandent eux-mêmes apôtres, hein, je ne parle pas de ça, hein, mais la manière, ce réveil qui était là, cette manière de servir Dieu, d'adorer Dieu, va revenir. Et je suis sûr que en tout cas, je n'en fais pas une doctrine, hein, et que avant le retour de Yeshua, ça va venir. C'est une question de justice, question de justice, pour montrer la véritable adoration à nous tous, pour nous amener à l'unité de la foi, c'est-à-dire à la foi des apôtres, à la foi d'Abraham, à cette vie consacrée, à cette vie intime, à cette vie vraiment très proche de l'Éternel Dieu, comme Abraham qui parlait, qui dialoguait avec l'Éternel Dieu, vous voyez, qui dialoguait avec lui. Néanmoins, il y aura toujours l'ivraie, hein, bien sûr, puisque la Bible nous dit que l'ivraie et le blé seront à la fin des temps, de la même manière, mais l'exemple type de cette assemblée, donc, sera là, parce que l'Église aujourd'hui, ce qu'on appelle Église, hein, s'est beaucoup éloignée de l'Éternel Dieu, s'est beaucoup éloignée de la foi des apôtres aujourd'hui. Et avec tout ce qui se passe dans certaines assemblées chrétiennes, on se demande si ces personnes ou bien ces soi-disant pasteurs ont vraiment connu Yeshua. Yeshua ne ferait pas ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous avez du discernement pour voir que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas conforme à ce que la Bible dit. Des fois, je ne parle pas de toutes les assemblées, de toutes les dénominations, mais cette multiplicité de dénominations qui se font la guerre, qui se concurrencent, chacun veut gagner plus d'âmes que l'autre, juste pour avoir plus de dîmes et d'offrandes, hein, c'est tout ce qui les anime. Pas tous, bien sûr. Et je peux même m'hasarder à comparer que les vierges sages, ce seront ceux-là, ces croyants, qui reviendront à cette foi des apôtres, à cette foi. Il faut une révélation de l'Éternel Dieu. Mais je suis sûr que ce ministère prophétique va apparaître, le ministère prophétique, avec la puissance et l'onction d'Élie, va apparaître, parce que il faut reformer, parce que l'Église faut reformer, il faut secouer les frères et sœurs. Il faut secouer les frères et sœurs. Vraiment, il faut tous nous secouer et l'Esprit de Dieu se chargera de le faire pour que nous puissions réaliser cette unité de la foi, pour que nous arrivions à cette unité de la foi. C'est ce que la Bible nous dit, unité de la foi, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, tous à l'unité de la foi, à l'unité de la foi, à la foi des apôtres. D'accord? Ces Élie, ces prophètes vont ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Il faut une unité de la foi, à la connaissance, et nous connaîtrons vraiment le Fils, à la connaissance du Fils de Dieu. Le vrai, aujourd'hui, beaucoup rejettent, même dans le monde entier, la notion même du Fils de Dieu. D'accord? Et si nous lisons bien la parole, surtout dans le Nouveau Testament, lorsque Yeshua a été baptisé, et la voix nous, Jean même a rendu, Yohanan à Matbil, aux Jean, a rendu témoignage que celui qui l'a envoyé baptiser lui a dit, celui sur qui va descendre l'esprit et s'arrêter. Celui qui aura l'esprit sans mesure, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Qu'il est le Fils de Dieu. Il y a aussi l'article, le Fils de Dieu. Le Fils d'Élohim. Ou bien le Fils de l'Éternel. C'est lui, le Fils, pas un autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Pas un autre. Il n'y a pas de salut en aucun. Il est le Fils. C'est pourquoi quand les Juifs ont entendu cela, ils disent, ah oui, il se prend pour Dieu. Le Fils de Dieu. Ha ben Elohim. Rabbeinu, le fils. Le fils. Pas un des fils, pas un des enfants. Le fils de Dieu, qui est Yeshua. Hein? À la connaissance, nous devons tous prier pour parvenir à cette unité de la foi et de la connaissance. Donc, ce sont ces personnes inspirées de Dieu, ces frères et sœurs qui seront inspirés, guidés par l'Esprit Saint, comme Jean à Matville l'a été, pour prêcher la parole. Des prédicateurs puissants, des enseignants vont venir avec l'onction. Voilà. Moi, je suis convaincu de cela, que avant le retour de Yeshua, l'Église va subir un grand bouleversement. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas des bâtiments, je ne parle pas de dénominations. L'Église, c'est des pierres vivantes. L'Église. Et je suis, ces vierges sages, ce sont ceux-là qui accepteront ces bouleversements et qui se remettront en cause, qui quitteront leur carcan religieux, comme Jean le baptiseur le prêchait à ses contemporains, comme Élie l'a prêché en son temps. Il a dit, si l'Éternel est Dieu, venez après lui, pourquoi clochez-vous des deux pieds? Pourquoi hésitez-vous? Pourquoi vous voulez avoir un pied dedans, un pied dehors? Si l'Éternel est Dieu, allez avec lui. Mais ne restez pas, n'hésitez pas, ne mélangez pas. Ne mélangez pas la vraie adoration avec le monde, avec l'idolâtrie. Soyez purs, soyez saints, sanctifiez-vous, c'est-à-dire mettez-vous à part pour l'Éternel Dieu. Ça n'a rien à voir avec la pureté. Être sanctifié, se mettre à part. Vous voyez, beaucoup de gens ont... Ça ne veut pas dire être sans péché, hein. On dit sanctifié parce que beaucoup de doctrines ont circulé comme ça. Parce qu'on nous dit sanctifié, c'est comme si cette personne n'a plus de... ne peut pas tomber, ne peut pas... c'est comme si cette personne est devenue d'un seul coup parfaite. Mais non. Ce qui a entraîné beaucoup d'incompréhension, beaucoup de culpabilité chez beaucoup de frères et sœurs. Le terrain nous dit de nous mettre à part. Mais nous sommes toujours des pécheurs pardonnés. Et nous pouvons, à un moment donné, tomber. Mais quand nous tombons, il faut se relever en même temps. Et poursuivre la route. Confesser ses péchés. Ouais, on se convertit une seule fois, mais on se repent tous les jours même. On se repentra jusqu'à la fin, repentant, jusqu'à la fin de notre existence sur cette terre. C'est possible ça, parce que nous ne sommes que des êtres humains, nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des hommes parfaits, nous avons des faiblesses, nous pouvons encore pécher par omission ou bien par, faire des colères, voilà. Et être sujet à des choses coupables devant l'Éternel Dieu. Mais nous devons tout faire grâce à l'assistance du Saint-Esprit de mener une vie conforme à la parole de l'Éternel Dieu. Mais nous ne sommes pas encore parfaits. La perfection viendra lorsque notre corps, ce corps corruptible, sera transformé. Donc je disais qu'à cause de ces versets, ou bien grâce plutôt à ces versets, on nous dit ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Qu'est-ce qui s'est fait dans les temps anciens qui se fera à la fin? Qu'est-ce qui s'est fait? L'enlèvement, la vue, la résurrection des morts, oui, ça aussi. Voilà la prophétie. Également, le réveil. Élie a été un prophète de réveil. Jean le baptiseur aussi a été un prophète de réveil. Et je suis convaincu que avant que la trompette ne sonne, l'Éternel Dieu, dans sa grâce, enverra encore des frères et sœurs sous l'onction d'Élie qui vont secouer l'Église, qui vont secouer tous les frères et sœurs de par le monde entier. Et la Bible nous dit que l'évangile aussi sera prêché en témoignage des nations, en témoignage également à Israël, parce que le prophétique va revenir dans Israël bientôt avec les Élie qui vont apparaître et qui vont montrer que l'Éternel est Dieu, est l'Éternel et que Yeshua est le véritable Messie. Hein? Ça va se passer. Je ne sais pas quand, je n'ai rien reçu là-dessus, mais je suis sûr en interprétant ces versets, puisque même la Bible nous le confirme dans Éphésiens 4, 13, puisque la vérité est établie sur la déposition de deux ou de trois témoins, et que nous tous, la prière de Yeshua, c'est que nous soyons un. Et l'Esprit nous le rappelle encore dans Éphésiens 4, 13, que nous, à tout ce que l'Éternel Dieu a mis dans l'Église, tout ce que Yeshua, notre Seigneur, la tête, le chef de l'Église, nous a donné comme don, comme ministère, comme opération, ainsi de suite. Parce qu'il y a aussi des opérations qui se font. Si vous allez dans 1 Corinthiens 12, vous allez voir qu'il n'y a pas que les dons, mais il y a aussi des opérations qui se font. Des opérations qui peuvent s'accomplir également. Hein? Et que tout cela a un but, nous amener tous à l'unité de la foi. À l'unité de la foi avec nos prédécesseurs, avec les apôtres. Ce n'est pas pour rien que dans Apocalypse, quand on voit la nouvelle Jérusalem, on nous dit qu'il y a profondément quoi? On a les 12 noms des apôtres, hein? Les 12 noms des apôtres qui ont des portes, non? Des portes, attendez. Les portes de la ville. Les portes de la ville, Apocalypse, qui portaient le nom des apôtres. Je pense que c'est ça. D'accord, donc c'est ça. Les portes portent le nom des apôtres. Non, si mes souvenirs sont bons. On dit, non. Ah non, c'est plutôt les portes sont les. Porte le nom des 12 tribus d'Israël. Ah voilà, c'est ça. Et la muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Vous voyez, c'est le fondement de la ville de Jérusalem, c'est le nom des 12 apôtres de l'agneau. Et les portes, les 12 portent le nom des 12 tribus d'Israël. C'est dans Apocalypse 21, 13 à 14. C'est ce que nous voyons. Donc, mes frères et sœurs, voilà. Donc, ce n'est qu'une réflexion qui était dans ma tête depuis des années. À cause de ce, en tout cas, grâce à ces versets-là, je méditais cela. Je me disais, mais qu'est-ce que cela? Si c'est vrai, c'est que ce qu'on a vu au commencement, on le verra aussi à la fin. Ce qu'on a vu de l'Église aussi à ses débuts se verra aussi à la fin. D'accord? Donc voilà. Donc, en tout cas, moi, c'est ma prière. Je prie dans ce sens pour que l'Éternel Dieu envoie, comme il a aussi envoyé Élie, comme il a envoyé Jean le baptiseur. Voilà. Comme il a mis des ministères, que ces ministères servent vraiment à cela, quoi, à réveiller les frères et sœurs, à nous réveiller tous et à nous amener à cette unité de la foi. Sans cette unité de la foi, il sera très très difficile. Aujourd'hui, l'Église est tellement divisée, les chrétiens, ceux qui se réclament de Yeshua sont tellement divisés avec autant de doctrines, autant de prédications, autant de prophéties mensongères, autant de choses qui divisent les différentes dénominations. Les différentes dénominations qui se font la guerre. On se demande si des fois c'est l'Esprit Saint qui dirige ces gens-là. Je ne pense pas, hein, parce que l'Esprit Saint n'est pas un esprit de querelle ni de division, puisque Yeshua a prié pour l'unité de l'Église. Et l'Église, ce ne sont pas les dénominations seules, ce n'est pas les dénominations, l'Église, hein, c'est les croyants. Je me souviens de ce rêve que ce frère, que ce pasteur norvégien, non, je pense que c'est Olaf, avait fait. Il voyait que les chrétiens étaient dans des prisons dénominationnelles, voilà. Et Yeshua lui disait que ces brebis ne sont pas là-dedans. Et il a montré à l'extérieur de toutes ces dénominations une plaine verdoyante avec beaucoup de brebis, et il a dit à ce pasteur que voilà, ce sont ces brebis qui sont là-bas, mais pas dans les prisons dénominationnelles. D'accord? Donc, ces dénominations sont plus des prisons que des églises. Plus des prisons que des églises, parce que elles mettent un carcan doctrinal, un carcan vraiment, ou même la peur, il y en a même qui menacent les membres de ne pas aller au ciel s'ils quittaient la dénomination, bien s'ils contestaient ce que dit le pasteur. Sachez que personne, aucun croyant n'est le mouton d'un pasteur ou d'un responsable. Nous sommes tous les brebis de Yeshua, le Messie, qui est mort et ressuscité, qui nous a racheté de la vaine manière de vivre. C'est lui le grand berger des brebis, et non un surintendant, un archibishop, un prophète, un soi-disant apôtre ou pasteur, ou bien tout ce que vous pouvez nommer. D'accord? Yeshua seul est le grand pasteur de brebis. Il est le chef de l'église, la tête de l'église. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Vous pouvez vous-même poursuivre cette réflexion et arriver à votre propre conclusion ou conviction. Mais une chose dont je suis sûr, c'est que ces cinq ministères, les dons et autres, vont prendre de plus en plus de l'ampleur lorsque le retour de Yeshua se rapproche. Et ce ministère prophétique avec la puissance d'Élie, c'est ce que Yeshua a dit avant Jean-Baptiste. D'accord, Jean-Baptiste est apparu. Jean-Baptiste était né avant Yeshua également. D'accord, Jean le baptiseur plutôt, excusez-moi, mais voilà, c'est comme ça que nous avons été enseignés, vous voyez, ça reste encore. C'est Jean le baptiseur était né et est apparu avant Yeshua pour montrer la voie, pour révéler Yeshua à Israël, comme on révélait les rois à Israël, comme Samuel à Oin, par exemple, Shaoul ou bien David, en le révélant au peuple après, quelques jours après. Donc, Jean, l'Éternel Dieu a envoyé donc Jean le baptiseur, donc, pour préparer le chemin de Yeshua, lors de sa première venue. De la même manière, avant sa seconde venue, l'Éternel Dieu va susciter des prophètes, va envoyer donc des gens, donc des frères et sœurs, qui seront loin de l'esprit d'Élie pour préparer le chemin du retour de Yeshua, afin que l'Église, afin que tous les frères et sœurs que nous sommes, en tout cas si nous sommes encore en vie, que nous parvenons donc à l'unité de cette foi et que notre foi rejoigne la foi des apôtres. Hein, la foi des apôtres. Et qui n'est autre que la foi de Abraham, hein, c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Hein. la foi d'Abraham qui marchait avec Dieu. Vous voyez, qui marchait, qui avait cette intimité avec l'Éternel Dieu. Même si il n'est pas parfait, mais personne ne l'est. Hein. Personne ne l'est, même si aujourd'hui j'écoute des prédications où on critique beaucoup Abraham. Moi, je ne fais plus ça. Hein. Franchement, je ne fais plus ça parce que je n'étais pas là lorsque cela s'était passé. Et je n'ai rien à dire là-dessus, à les juger, à le juger, à dire ceci, les gens jugent tel, 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 vous voyez, sans connaître rien du tout. Est-ce que eux-là qui critiquent Abraham, ils ont la foi d'Abraham? S'ils avaient vécu, ils feront pire que lui. Hein. Alors là, arrêtez de dire ce que vous ne savez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vaut mieux ne rien dire que de dire des âneries ou des sottises. Donc voilà ce que j'ai à dire. Hein. Voilà donc, je suis convaincu et je le dis encore que avant le retour de Yeshua, nous verrons que l'Esprit de Dieu va envoyer des frères et sœurs avec l'Esprit d'Élie. On le verra même dans les prédications, chez les évangélistes, chez les prophètes, chez les apôtres et chez les docteurs, les enseignants. Tout le ministère que Yeshua a donné à l'Église va se faire avec puissance et autorité. Les opérations, de même que les dons, les vrais dons, je parle, pour ramener les frères et sœurs à l'unité de la foi, à cette foi des apôtres, afin de préparer les frères et sœurs au retour de Yeshua. Merci, que l'Éternel Dieu nous bénisse et nous garde. Amen et Amen. À bientôt.